Bienvenue à tous pour notre premier débat de l'après-midi. Alors, il va de soi que dans notre vie et dans notre pensée, nous ne comprenons pas toujours ni tout. Et lorsqu'on est confronté au phénomène de l'étrangeté, au phénomène de la désorientation, alors se pose le caractère problématique de la vérité et du sens. Dans ce contexte, comprendre l'existence de l'homme dans le monde, comprendre comment, pourquoi, en vertu et en fonction de quelles valeurs il s'oriente, sont des dimensions sans lesquelles la philosophie ne vaudrait sans doute pas la peine d'être pensée. Pour discuter ces questions et s'interroger sur le sens de la compréhension, qu'est-ce qu'interpréter un discours, qu'est-ce que comprendre, et au fond, quel est l'art de l'herméneutique, je suis très heureux et honoré de recevoir aujourd'hui Christian Berner, qui est maître de conférences à l'université de Lille 3 et co-directeur de l'UMR Savoir Texte Langage, qui est également traducteur de nombreux auteurs comme Steyermacher, Ludwig Feuerbach et d'autres. Et je vais donc lui laisser la parole pour nous présenter le livre qu'il vient de publier, intitulé « Au détour du sens » aux éditions du CERF. Christian Berner, bonjour et je vous laisse la parole.
Bonjour, merci pour cette présentation, cet hors d'œuvre. Pour ce qui est de la question de la compréhension, je vais essayer de vous présenter rapidement l'ouvrage Au détour du sens, en essayant de partir, en précisant quelques-unes de ses caractéristiques. Tout d'abord, en soulignant que c'est un ouvrage qui porte effectivement sur le problème de la compréhension, qui est un ouvrage qui, en tant que tel, est un travail qui n'est pas achevé, tout en étant une réflexion sur l'herméneutique que l'on définit comme étant l'art de comprendre et d'interpréter, l'art de comprendre et d'interpréter les discours, herméneutique qui a été élargie dans la philosophie contemporaine en une théorie générale de la compréhension, en une théorie générale du comprendre. Alors, au départ, l'herméneutique se définissait d'ailleurs plus généralement comme étant un art d'interpréter, et non pas comme un art de comprendre. C'est à partir du XIXe siècle qu'on a défini l'herméneutique comme étant un art de comprendre et donc d'interpréter, étant entendu qu'il fallait pour cela une certaine révolution dans le mode de pensée, c'est-à-dire se dire que pour comprendre, il faut nécessairement et toujours interpréter pour comprendre vraiment. Alors le point de départ de toute herméneutique, de tout art de comprendre, est un fait, à savoir le fait qu'on ne comprend pas, auquel se heurte initialement même la philosophie dans le cadre de l'étonnement, la philosophie de la conscience dans le cadre du doute. On ne sait pas si ce que l'on pense est vrai, on ne comprend pas vraiment. Et cette expérience de la non-compréhension, au départ, manifeste une volonté de comprendre. Puisque si je ne comprends pas, au départ, c'est bel et bien que je prends conscience que quelque chose m'échappe, et donc de ce fait, je voulais comprendre. Et cette expérience de la non-compréhension est le point de départ de toute réflexion sur ce qu'est l'herméneutique, sur ce qu'est l'art de comprendre, en s'interrogeant sur ce que signifie cette volonté de comprendre dont on fait l'expérience dans la non-compréhension et quelles sont les conditions de possibilité d'une compréhension correcte. Alors, il va de soi que je vais présenter, ça c'est le point de départ, donc l'expérience de la non-compréhension, c'est ce qui suscite, si vous voulez, toute réflexion sur ce qu'on appelle l'herméneutique. Alors je vais essayer de vous présenter mon ouvrage en vous disant tout de suite, bien sûr, que c'est un principe de toutes les théories de l'interprétation, que l'auteur, lorsqu'il présente son ouvrage, n'a pas de place privilégiée. C'est-à-dire, comme l'ont dit la plupart des penseurs de l'herméneutique, dans les derniers Paul Ricoeur, à savoir, un autre lecteur peut être meilleur lecteur que l'auteur de son propre livre. Pour une raison très simple, c'est parce que d'abord, on n'est plus le même que celui qui a écrit le livre il y a déjà maintenant quelque temps, entre le moment de la rédaction de la publication. Ensuite, bien évidemment, parce qu'on ne sait toujours pas très bien si on a réussi à dire dans le livre ce que l'on pensait dire, et non plus si le texte dit vraiment ce qu'on espérait dire. Donc il va de soi que ce que je vous présente, c'est un peu ce que je pense maintenant avoir voulu dire à l'époque lorsque j'ai écrit ce livre. Alors, je reviens globalement sur le statut de l'herméneutique. L'herméneutique, qui est une discipline ancienne, est une discipline qui relève de la philologie au départ. C'est un art philologique où l'herméneutique est le complément de ce que l'on appelle la critique. La critique est la discipline qui établit l'authenticité des textes, hein, pour savoir ce qui doit figurer dans le texte, etc. L'herméneutique, elle, établit le sens de ce qui est dit, en réinscrivant le texte dans son contexte, en connaissant la langue, etc. À ce titre, classiquement, l'herméneutique s'articule autour de la logique et de la rhétorique, dont elle est le complément. Effectivement, la logique est classiquement l'art de bien penser, l'art de bien conduire sa pensée, de bien être producteur de ses pensées. La rhétorique est l'art de bien présenter sa pensée. Et l'herméneutique, à titre de complément à la fois de la logique et de la rhétorique, est l'art de bien comprendre la pensée présentée, étant entendu qu'elle a d'abord été bien pensée. Ce qui inscrit, si vous voulez, l'herméneutique comme art de comprendre dans un lien tout à fait traditionnel avec la logique comme art de penser et la rhétorique. Et l'herméneutique, dans ce contexte, ayant affaire à l'art de comprendre la pensée donc présentée, a affaire essentiellement d'abord à des textes. Et c'est là précisément l'une des difficultés dans la philosophie contemporaine où ce que l'on appelle philosophie herméneutique a été élargi pour porter sur des choses qui ne sont plus à proprement parler des textes, c'est-à-dire des discours. Effectivement, l'herméneutique s'attache à des œuvres d'art, qu'elles soient musicales, qu'elles soient picturales, s'attache à toutes sortes d'objectivations, c'est-à-dire à des formes culturelles, à des institutions, au droit, à l'économie, etc., pour essayer de dégager son sens. Et donc a pris, pour ainsi dire, un recul important par rapport à ce qu'était l'herméneutique au départ. Alors cela pose, bien entendu, un certain nombre de problèmes, puisque les méthodes de l'interprétation, qui sont classiquement celles de l'interprétation des textes, hein, la remise dans le contexte, la connaissance de la langue, etc., les connaissances historiques, est-ce que ces méthodes-là peuvent être exportées pour s'appliquer à d'autres objets que les textes? C'est une question que je n'ai pas vraiment tranchée, sur laquelle nous pourrons peut-être revenir. Toujours est-il que l'herméneutique traditionnelle fournit un certain nombre de règles de la méthode, qui permettent d'établir le sens, ce qu'on appelle le sens, et je reviendrai sur ce qu'il faut entendre par là, le sens dans le cadre d'interprétation que l'on estime être valide. Et je reviendrai là-dessus aussi. Donc, l'objet de mon ouvrage est de partir de la problématique générale de la compréhension, en partant de la problématique herméneutique. Alors, la problématique de la compréhension est évidemment une problématique extrêmement vaste, puisqu'elle définit, dans sa généralité, en tout cas, l'activité du philosophe. Mais beaucoup plus même l'activité de tous ceux qui recherchent la connaissance, du scientifique, etc. etc. Le propre du philosophe est qu'il cherche, non seulement comme tout le monde, à comprendre, comme tous les chercheurs, mais encore à réfléchir sur ce qu'est la compréhension, c'est-à-dire à faire comprendre ce que l'on comprend et comment on comprend. Donc un retour réflexif sur la compréhension. Et c'est cette problématique d'un retour réflexif sur la compréhension, ce que c'est que comprendre, qui oriente ici les questions fondamentales. Pour situer rapidement la chose dans le contexte de la pensée générale du XXe siècle, il va de soi que cette interrogation, qui est évidemment très ancienne, hein, ce que c'est que comprendre, depuis toujours les hommes désirent ou pensent désirer comprendre, cette interrogation ancienne a pris au XXe siècle une dimension tout à fait spécifique, puisque deux courants essentiels de la philosophie contemporaine ont mis au centre de leur réflexion cette problématique de la compréhension et la problématique accessoire de l'interprétation. Alors bien sûr, ce qu'on appelle la philosophie herméneutique, les grands noms sont Heidegger, Gadamer et d'autres, mais aussi la philosophie dite analytique, la philosophie analytique du langage, hein, qui se demande ce que c'est que comprendre, comment comprend-on des phrases, comment comprend-on des textes, et ce que c'est qu'interpréter, d'une façon générale. Donc deux courants importants de la philosophie contemporaine posent ce problème au centre de leur interrogation. Alors, ce que moi je cherche par rapport à ces grands courants, c'est d'élaborer les grandes lignes d'une philosophie de la compréhension qui trouve dans l'herméneutique, cette fois plus traditionnelle, des modèles de compréhension. Alors, avant de présenter là aussi directement la structure de l'ouvrage, je voulais rappeler quelques notions générales relatives à la compréhension qui permettront de mettre en relief, pour ainsi dire, les différents moments. Alors, je disais que la philosophie, en général, se définit comme une volonté de comprendre. C'est une thèse traditionnelle que l'on trouve chez Aristote, hein. Tous les hommes désirent naturellement comprendre. Et donc, de ce fait, si tous les hommes désirent naturellement comprendre, il semblerait que l'herméneutique, qui est l'art de comprendre et d'interpréter, rencontre nécessairement, si vous voulez, la philosophie dans son élan le plus initial. Il va de soi, Alyosha le rappelait tout à l'heure, il va de soi que nous ne voulons pas toujours tout comprendre. Il va de soi que parfois nous tirons même avantage du fait de ne pas comprendre, du fait de l'incompréhension. L'expérience montre effectivement que très souvent, nous faisons un grand nombre de choses sans les comprendre. Et plus facilement d'ailleurs, lorsque nous ne les comprenons pas, lorsque nous les faisons de manière quasiment, disons, automatique. Et c'est pourquoi, dans le monde quotidien, nous nous contentons le plus souvent d'une compréhension approximative, qui ne saurait pas être appelée compréhension au sens fort du terme. On ne sait pas vraiment, on sait un peu, mais on ne sait pas vraiment. Alors l'origine de l'illusion suivant laquelle l'homme veut toujours comprendre est relativement facile à déceler, puisque l'origine de cette illusion tient sans doute au fait que nous ne sommes que très rarement conscients de ce que nous ne voulons pas comprendre, puisque précisément nous ne le recherchons pas. Donc, il ne faut pas se tromper, ma thèse n'est pas, dans mon ouvrage, que l'homme se définit comme l'être qui veut toujours comprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas la thèse suivant laquelle l'essence de l'homme est de comprendre, ce dont je ne suis pas du tout convaincu, de toujours tendre à la compréhension. Il y a des situations où nous sommes en devoir de comprendre et d'autres situations où nous ne comprenons pas. Ce qui se saisit de façon très très simple, cette négation de l'universalité de la volonté de comprendre, se comprend de manière simple si l'on réfléchit à ce que signifie comprendre et quelles sont les conditions de possibilité de la compréhension. Pour comprendre, il faut finalement se fonder sur des éléments explicatifs qui eux-mêmes, en dernier ressort, des éléments simples, des éléments premiers que nous admettons, comme dans les sciences, de manière hypothétique, comme les éléments simples que recherchait Descartes, ces éléments premiers qui sont donnés à une intuition, pour ainsi dire, des éléments simples que nous comprenons immédiatement et à partir desquels nous comprenons le reste. Donc il y a toujours dans la compréhension quelque chose qu'au fond nous acceptons sans le comprendre jusqu'en ses ultimes retranchements. Donc il y a toujours dans toute compréhension, un élément ou un fond d'incompréhension, de quelque chose que nous ne maîtrisons pas totalement. Ce qui inscrit, comme l'ont rappelé notamment les romantiques régulièrement, ce qui inscrit, bien entendu, la mécompréhension au cœur de la compréhension. Comprendre, c'est aussi quelque part ne pas tout comprendre, mais se contenter précisément de ce qu'on comprend, et c'est ce qui fait sens. Donc, la compréhension n'est pas universelle en tant que telle. Deuxième point que je voulais souligner avant de donner cette structure, c'était rappeler ce qu'il convient d'entendre par compréhension. Qu'est-ce que comprendre? Qu'appelle-t-on comprendre au sens le plus général? Je dirais, cela pourrait être discuté, mais c'est ce que j'ai essayé de, de soutenir que la compréhension, comme son terme l'indique, n'est rien d'autre qu'une certaine faculté d'intégration, c'est-à-dire une certaine faculté de cohérence, intégrée dans une totalité cohérente, c'est-à-dire dégager une connexion entre les éléments. Je comprends ce que j'arrive précisément à prendre ensemble et dont j'arrive à dégager, pour ainsi dire, la structure. Alors si la compréhension est ainsi une telle mise en évidence d'une connexion ou d'une cohérence, on peut aussi, pour préciser ce en quoi elle consiste, en faire ressortir un certain nombre de caractéristiques que je voulais rappeler parce qu'elles permettent d'écarter de la philosophie de la compréhension des pensées qui, finalement, mettent en péril ce que c'est que comprendre. Et je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure à propos de certains auteurs. La première dimension, je vais distinguer trois plans pour ce faire. La première dimension est que dans la compréhension, pour comprendre ce que c'est que comprendre, il faut maintenir une certaine opposition entre le vrai et le faux. Bien que le vrai et le faux aient ici, bien évidemment, un sens tout à fait spécial, puisqu'il ne s'agit pas d'une adéquation avec quelque chose qui existerait en soi. Si la compréhension était vraie, il faudrait que ce que je pense soit parfaitement adéquat au sens en soi de ce qui est dans le texte. Comment accéder ? Qu'est-ce que c'est que le sens en soi du texte ? Est-ce que c'est ce qui est écrit dans le texte, ce que l'auteur voulait dire, etc. ? Le statut du sens en soi est problématique. Donc, ce n'est pas une adéquation au sens traditionnel du terme. Mais lorsque je dis qu'il faut distinguer une compréhension vraie et une compréhension fausse, je veux dire qu'il faut distinguer entre bien comprendre et mal comprendre, pour comprendre ce que c'est que comprendre. Effectivement, s'il est difficile de définir le vrai sens, au sens de l'adéquation dont je viens de parler, il est facile de déterminer ce qui est faux. Ce qui est faux, un sens qui est faux, est un sens qui, suivant la définition de la compréhension qui a été donnée, est un sens qui ne contribue pas à la cohérence. Quelque chose qui détruit la cohérence. Le sens faux est le sens qui débouche sur la contradiction et qui détruit donc la connexion. Donc, premier sens, il faut donc, première caractéristique, il faut parler d'une compréhension plus vraie qu'une autre. Deuxième caractéristique, il faut pour toute compréhension ne pas garder le sens général de compréhension, mais distinguer des niveaux de compréhension. Des niveaux de compréhension qui peuvent être ordonnés. Alors, et à ces niveaux de compréhension correspondent des activités cognitives distinctes. Par exemple, lorsque vous avez un texte, comprendre ce que l'auteur a dit est autre chose que comprendre ce que l'auteur avait l'intention de dire, puisqu'il n'est pas dit qu'il ait dit ce qu'il avait l'intention de dire. Oui. De même, on peut le voir de façon tout à fait simple, lorsqu'on prend une phrase, par exemple, lorsque quelqu'un dit « la fenêtre est ouverte », on comprend ce qui est dit, cela décrit un état de choses, mais la personne qui dit « la fenêtre est ouverte » à un autre niveau de compréhension peut vouloir signifier qu'il fait trop froid et inviter quelqu'un à la fermer. Et donc, à ce titre, il faut à chaque fois, dans la compréhension, distinguer des niveaux de généralité, qui sont liés à la contextualisation, c'est-à-dire précisément à l'établissement d'une cohérence dans la compréhension, une totalité cohérente. Et la compréhension n'est que relative à cette totalité à laquelle je me réfère. Donc, distinction entre le vrai et le faux, niveau de compréhension, et le troisième point est la thèse importée de l'herméneutique, suivant laquelle il existe des principes généraux de l'interprétation, c'est-à-dire des règles qui permettent de conduire une interprétation correcte. J'en donne un seul exemple, c'est celui très très connu de ce qu'on appelle la charité. Le principe de charité qu'utilise la philosophie analytique, entre autres la philosophie analytique du langage, et qui dit que pour comprendre vraiment un texte, il faut comprendre que quelqu'un a voulu dire quelque chose et il faut supposer qu'il a mis en œuvre les moyens pour le faire. Donc on suppose une certaine rationalité qui est à l'œuvre dans le texte pour faire passer le sens. Et ça, c'est un principe qui garantit que l'on puisse comprendre le texte. Si on ne suppose pas que le texte a un sens, on ne peut pas le comprendre. Et ça, c'est un principe, une règle tout à fait générale, qui permet, pour ainsi dire, de resserrer la connexion entre les différents éléments, et donc, de ce fait, de rendre possible la compréhension. Donc, il y a, est-on obligé de dire, dans l'interprétation, si on distingue le vrai et le faux, les niveaux de compréhension et l'existence d'un certain nombre de règles, il y a dans l'interprétation qui conduit à la compréhension toujours une prétention à la validité qui s'oppose, à mon sens, qui s'oppose à l'idée que les interprétations se juxtaposent dans une dissémination du sens qui ne permet pas justement de revenir à une connexion, si vous voulez, des différents éléments. Alors, voilà grosso modo ce que je voulais dire sur ce qu'est la compréhension. Alors, pour y parvenir, il va de soi que la thèse de l'herméneutique est qu'il faut procéder par l'interprétation. L'interprétation qui reconstruit ou restitue ou essaye de restituer, de restaurer un sens qui est supposé exister dans un ensemble de signes, alors que cet ensemble de signes soit un texte, soit une œuvre, ou soit même une action, si vous voulez, dans la mesure où les activités d'interprétation s'appliquent aussi au domaine général des activités humaines. À ce titre, il va de soi que toute interprétation est toujours une réinterprétation, c'est-à-dire qu'il s'agit de retrouver un sens qui était attaché à un texte. L'auteur, lorsqu'il écrit son texte, lorsqu'il veut mettre son sens, enfin le sens qu'il vise, en forme, sa compréhension en forme, interprète le langage de façon à pouvoir exprimer le sens qu'il a visé, ce qu'il veut dire, par exemple. L'interprète, comme tel, va réinterpréter cette première interprétation du langage comme étant une mise en forme du sens. Et donc, à ce titre, l'interprétation ou l'herméneutique est toujours un travail de remise en sens. Retrouver un sens ou le remettre en sens qui implique l'activité d'un sujet qui investit le sens, etc. Alors, de ce fait, la compréhension, dans la mesure où elle a affaire à une réinterprétation à partir d'un sens supposé dans un élément qui est extérieur, l'interprétation est toujours un travail, pour ainsi dire, de décentrement, un travail qui consiste à se dessaisir du sens en moi pour présupposer que le sens est en l'autre, que le sens est extérieur ou étranger. Et je dois pouvoir reconstruire ce que je ressens comme étant une adresse ou comme étant un appel de sens. Je pense qu'il y a là quelque chose qu'il faut comprendre. Je pense qu'il y a là du sens et que par conséquent, je reconstruis à partir d'une altérité qui est réelle. Alors voilà ce que je voulais dire en général sur la compréhension avant de très rapidement vous donner l'articulation de l'ouvrage lui-même. C'était juste le concept de la compréhension. L'ouvrage est structuré en 5 moments. J'irai rapidement. Dans une première partie, je présente des éléments d'histoire de l'herméneutique, c'est-à-dire des théories de la compréhension. Je passe ensuite au devoir de comprendre, à la perspective du sens, aux conceptions du monde et à l'art du détour. Ça, c'est le plan. Quelques mots sur chacune de ces parties, très rapidement. La première partie, donc, s'intitule « Éléments d'histoire de l'herméneutique ». Alors, mon but était tout simplement de corriger une réception de l'herméneutique, réception commune de l'herméneutique, qui assimile l'herméneutique, comme art d'interpréter et de comprendre, à la philosophie de Heidegger et de Gadamer, en général. Alors, si je le fais, c'est parce que, en France, la spécificité de l'herméneutique est encore relativement mal connue. Alors, que se passe-t-il dans l'histoire de l'herméneutique ? L'herméneutique, je vous l'ai dit, est partie des textes, elle était une méthodologie pour comprendre les textes. Elle a été ensuite, dans l'histoire, élargie à la compréhension d'autres choses que des textes. Alors, compréhension, comme je l'ai dit, d'action, compréhension d'objets historiques, etc., qui permettent de comprendre quel est le sens que les hommes donnaient à des actions, à des monuments, à des œuvres, etc. etc. Généralisation donc de l'herméneutique à d'autres objets que les seuls textes. Cette généralisation a rendu possible une généralisation beaucoup plus grande, opérée par Heidegger, qui est partie de la thèse suivant laquelle comprendre est une caractéristique fondamentale du Dasein, de l'être-là, disons, ce que Sartre traduit par réalité humaine. Il le dit dans Être et Temps, donc dans son maître ouvrage de la première période, comprendre est un existentiel, c'est-à-dire, on peut dire, une espèce de catégorie fondamentale de l'existence. Le propre de l'être de l'homme est de comprendre et d'avoir un rapport compréhensif, compréhensif pas seulement au monde, où effectivement il voit des significations dans tout ce qui l'entoure, il est sans arrêt renvoyé d'une signification à une autre, mais comprendre, dit-il dans un sens, lui, ontologique, comprendre l'être. L'être-là a un rapport compréhensif à son être en partant de la compréhension du monde, etc. En d'autres termes, la compréhension, au lieu d'être un mode de connaissance, connaissance des objets, devient un mode d'être, c'est-à-dire prend une dimension ontologique. Et c'est l'herméneutique comme ontologie, comme mode d'être, l'homme comme étant l'animal qui interprète et qui comprend, cette ontologie qui, jusqu'à Ricoeur compris, domine dans la compréhension de ce qu'est une philosophie herméneutique. Alors, avec des conséquences qui peuvent être relativement importantes, qui, dans le cadre de l'ontologie, peuvent être formulées de la façon suivante, pour le dire très rapidement, en disant que le Dasein, l'être-là de l'homme, l'être-là, se rapporte compréhensivement à son être, et dans ce rapport compréhensif à son être, il doit laisser se manifester l'être. Nous avons une transcendance du sens, qui est le sens de l'être, qui donne à l'être-là, pour ainsi dire, sa dimension spécifique. Donc la thèse de l'ontologie est que le sens est quelque chose de transcendant, ce que disaient toutes les théologies, toutes les herméneutiques théologiques, toutes les théories de l'interprétation, notamment biblique, en disant que le sens, c'est Dieu qui donne le sens au texte, ou alors c'est l'autorité de l'Église, si on prend l'interprétation, notamment de l'Église catholique. Donc, le comprendre est une manière pour l'homme d'être attentif à son être même. Ça, c'est la thèse de l'herméneutique traditionnelle. Alors, la grande difficulté que je trouve dans ce type d'approche, c'est que on dit par là ce que c'est qu'être. Être, c'est se rapporter à son être. On ne comprend pas vraiment très bien comment comprendre. On nous dit peu de choses sur comprendre. Et lorsque vous lisez tant Heidegger que Gadamer, on vous dit beaucoup sur ce que c'est que l'être, ce que c'est qu'être comprenant, mais on vous dit très peu ce qu'il faut faire pour comprendre. Je prends juste un exemple très rapide, exemple du préjugé, par exemple, chez Gadamer. Gadamer dit, l'être de l'homme, c'est d'avoir des préjugés, parce qu'il est pris dans une tradition, dans quelque chose qui le précède. Et que par conséquent, pour comprendre, il faut avoir des préjugés, on ne peut pas les dépasser. C'est le préjugé dit de l'autorité, chez Gadamer. Alors, il nous dit par là quelque chose sur ce que c'est qu'être un être qui comprend et qui, par conséquent, a des préjugés. Mais nous dire que pour comprendre, il faut avoir des préjugés, ce n'est pas dire grand-chose, puisque le propre du préjugé, non seulement est que parfois il est nécessaire pour comprendre, mais que parfois il est précisément ce qui nous empêche de comprendre, puisque le préjugé, étant jugé d'avance, ne me permet pas d'évaluer la chose à sa juste mesure. Donc en nous disant qu'il faut avoir des préjugés pour comprendre, et en comprenant que avoir des préjugés c'est tout aussi bien ce qui nous permet de ne pas comprendre, ou de mal comprendre, on ne voit pas très bien ce qu'il faut faire pour comprendre. En tout cas, avoir des préjugés n'est pas une condition de possibilité de la compréhension, puisque ne pas en avoir en est tout autant. Donc ça, c'est une des difficultés de cette herméneutique qui, finalement se détache, c'est dû à des raisons historiques, mais se détache beaucoup de la méthode de la compréhension pour décrire ce que serait l'être, de l'être comprenant. Contre cela, ma deuxième partie voulait rétablir le devoir d'une authentique théorie de la communication, ce que j'ai essayé de faire en revenant à Kant, tout simplement. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, je vais simplement rappeler que je centre ma réflexion, en partie relativement technique parfois, je centre ma réflexion sur l'idée simple, suivant laquelle Kant, au moment des Lumières, c'est-à-dire au moment où l'on célèbre la raison universelle, la raison partagée par tous, est l'un des penseurs qui fait ressortir le devoir de la confrontation concrète avec le sens qui nous est donné par autrui. Alors, je le dis très, très rapidement, Kant est quelqu'un qui a toujours été allergique à ce qu'il appelle l'égoïsme logique. L'idée que l'on puisse rester seul avec sa raison sans la confronter à d'autres, cet égoïsme logique qui a toujours été pour lui l'indice de la folie ou de la démence. Celui qui est seul avec sa raison, qui ne la confronte pas à autrui, ne sait pas, comme le génie, ne sait pas s'il est dément ou s'il ne l'est pas. Raison pour laquelle il développe très largement une pensée qui, tant dans la science qu'en général, tient sa vérité de la confrontation à une pensée autre, ce qu'il appelle dans les écrits, les premiers écrits les plus célèbres, ce qu'il appelle la publicité, c'est-à-dire la nécessité pour qu'un savoir ait une certaine certitude d'être rendu public pour être confronté, rendu public devant le public des savants, afin d'être confronté à d'autres prétentions de vérité, ce que dans la critique de la raison pure il explique à la fin, qui est extrêmement importante, en faisant ressortir l'usage polémique de la raison. La raison doit aller au conflit, doit chercher des raisons qui sont autres, et donc doit se confronter à un sens qui est autre. Chose qu'il retrouve encore, chose que l'on retrouve dans la critique de la raison pure, dans la mesure où la critique de la raison pure nous apprend que nous n'arrivons pas à connaître les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes. Nous n'arrivons à connaître que les choses telles que nous les structurons à partir de nos activités qui consistent à les comprendre, c'est-à-dire à les synthétiser, structures qui permettent de les synthétiser et qui par là peuvent être communiquées. Puisque ce que nous communiquons, c'est la manière dont nous mettons ensemble, dont nous établissons les connexions. Donc la critique de la raison pure qui rend compte d'une théorie de la communication de la connaissance, puisque nous ne connaissons pas les choses en elles-mêmes, c'est en cela que consiste l'objectivité, qui se trouve renforcée par une théorie qui est relativement connue, je la cite en deux mots, qui est la théorie du sens commun, des maximes du sens commun, où Kant dit, comme tous les penseurs des Lumières, ou même avant des Lumières, Descartes disait pas autre chose, qu'il faut penser par soi-même, Kant ajoute que penser soi-même n'a de sens que si cette pensée autonome, penser soi-même, est complétée par une pensée qui se met à la place de chaque autre et qui en même temps garantit la cohérence entre la pensée autonome et la pensée d'autrui, c'est-à-dire qui se confronte réellement à une pensée autre. Et il ne faut jamais oublier, j'entre pas dans le détail là non plus, mais il faut jamais oublier que Kant était tellement attaché à cette pensée autre, à cette autre source de sens, que toute sa vie, il a enseigné la géographie. La géographie, c'est-à-dire précisément d'autres sources de sens, d'autres coutumes, d'autres traditions, etc., d'autres manières de construire le monde, etc. Donc, d'une part, il a sans arrêt souligné cette dimension. D'autre part, il a enseigné régulièrement aussi l'anthropologie. L'anthropologie qui est une confrontation, non pas idéale, mais une confrontation concrète à d'autres types d'actions, d'autres façons de comprendre une théorie sensée. Et c'est dans l'anthropologie qu'il analyse d'ailleurs ce que c'est que interpréter. Dans son analyse du langage qu'il développe dans cette anthropologie. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans la philosophie, au cœur de la philosophie kantienne se trouve une philosophie du sens et d'un sens autre. Et c'est à partir de là que j'ai développé dans les deux chapitres qui suivent des potentialités, si vous voulez, de cette philosophie kantienne. D'une part, en développant une philosophie de la perspective, philosophie de la perspective qui dit que toute pensée ou saisie du sens, puisqu'elle est reconstruite toujours par un sujet qui s'investit, toute pensée du sens est perspective. Ce qu'on retrouve chez Kant lorsque Kant dit que le je pense, c'est-à-dire l'unité de toutes les synthèses, le je pense accompagne toutes les représentations. Il y a une perspective sur tout savoir. Dans une approche qui ne serait pas relativiste, hein, de la perspective, avant d'en venir dans le chapitre suivant à une philosophie, là aussi que je dérive de Kant, une philosophie dite des conceptions du monde, étant entendu que pour Kant, le propre de la raison, de l'élan de la raison vers la compréhension, est de finalement essayer de totaliser, la totalisation c'est cela comprendre, essayer de totaliser en se soumettant à des idées qui peuvent être différentes suivant les perspectives. Il donne, par exemple, on peut se soumettre à l'idée de la science, du déterminisme scientifique, et on peut ainsi avoir un monde qui est régi entièrement par la causalité, mais on peut aussi se soumettre à une idée qui serait l'idée morale, par exemple, dans laquelle il y aurait de la responsabilité, qui n'est pas soumise donc au déterminisme scientifique, à la causalité scientifique. Donc il faudrait choisir une autre idée qui serait l'idée de la causalité par liberté. Et donc on peut ainsi changer de perspective et de point de vue et totaliser le monde différemment suivant qu'on a une conception du monde scientifique déterministe ou une conception du monde morale. Hegel est le premier qui dit que chez Kant, sa vision de la morale est une conception du monde. C'est une façon de totaliser le monde sous l'idée de liberté et non pas sous l'idée de déterminisme. Ce qui signifie tout simplement que ces totalisations ne sont rien d'autre que des interprétations du monde. Et c'est là que je trouve les potentialités justement d'une philosophie herméneutique qui permet de totaliser un tel ensemble. Ce qui me conduit dans une dernière partie, et je vais en rester là, une dernière partie à analyser de plus près ce que j'appelle, en reprenant l'expression à Cassirer, un penseur donc, du début du XXe siècle, en reprenant l'idée de l'art du détour, c'est à lui que j'emprunte la formule qui sert de titre, l'art du détour, suivant lequel le sens n'est pas quelque chose qui se donne directement, mais exige précisément qu'il soit sans arrêt reconstitué dans un processus de totalisation et de réinterprétation. Voilà grosso modo le parcours, hein, de l'ouvrage.
Alors vous l'avez évoqué, mais comment peut-on alors échapper au relativisme ? Car il semble effectivement que si toute pensée est perspective, il y a le risque ou la tentation de multiplier ses pensées, de multiplier ses perspectives, peut-être d'ailleurs à l'infini, je ne sais pas, où se situe aussi la limite de validité ou d'acceptabilité de la perspective. Je vous cite dans cette partie consacrée à la perspective du sens, il y a dans toute interprétation une prétention à la validité. Interpréter et trouver un sens qui n'est pas accessible immédiatement, il y a donc des degrés du sens, mais que l'on accepte lorsqu'il nous semble convenir, être approprié. Est-ce que vous pourriez revenir sur cet aspect qui effectivement oblige la perspective à se multiplier, à s'ouvrir, mais à trouver sur son travail la tentation du relativisme?
Oui. Bon, il y a deux choses, hein, dans ce que vous dites. Il y a d'une part la définition que je donne du sens, puisque ce que vous avez vu, c'est que j'ai relativement peu parlé du sens et plus de la compréhension. Pour une raison simple, c'est qu'il me semble que le sens n'est pas facilement définissable, puisque on ne peut pas dire ce qu'il est. Il n'y a pas d'objectivité du sens comme tel. Le sens, si on veut s'en tenir à une définition générale, le sens c'est ce que nous comprenons. Le sens c'est ce que nous comprenons. Lorsque nous ne comprenons plus, nous disons ça n'a pas de sens. Et à ce titre, Ce que je voulais dire, notamment dans le passage que vous citez, c'est que la compréhension comme telle est historique, elle est provisoire. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des choses que je comprends, et lorsque je les comprends, elles font sens. À un moment, elles peuvent ne plus me satisfaire, c'est-à-dire que tout à coup, je ne comprends plus ce que j'avais dit. C'est une expérience que l'on fait régulièrement. On comprend plus ce qu'on a dit, ou on comprend plus ce qu'on avait compris. Il me semblait bien avoir compris cela avant, mais je comprends plus. C'est ce qui fait, par exemple, que si on parle de texte, ce qui fait qu'on revient au texte. Hein. Le sens n'est pas objectif, donc on ne résume pas le texte. On revient au texte parce qu'il faut le reconstruire. Hein. Et parce que j'ai une compréhension qui ne me suffit plus pour ce que j'avais à faire. Donc la compréhension comme telle me paraît effectivement provisoire, mais puisqu'il y a toujours, comme je l'ai dit, un fond d'incompréhension dans toute compréhension, on n'est jamais à l'abri de devoir reprendre le travail d'interprétation pour comprendre mieux. Mais parfois, on se contente de comprendre à peu près. Ça, c'est pour ce qui est de la reprise. Donc, le sens n'est jamais garanti d'être définitivement établi. Alors, pour ce qui est de la perspective, il me semble effectivement que la perspective comme telle semble renvoyer au relativisme, c'est-à-dire que chacun juge selon sa perspective. Ce qu'il faut voir, c'est que la notion de perspective a été introduite en herméneutique précisément dans un sens tout à fait contraire, contre le relativisme. C'est-à-dire que la perspective a été introduite en herméneutique par un philosophe du XVIIIe siècle, un leibnizien, qui s'appelle Cladenius, que je cite, je crois, qui l'introduit dans la compréhension, mais non pas parce qu'il défend la relativité, mais parce que notre compréhension étant située, tenir compte de la perspective est ce qui permet de supprimer la relativité. Donc le perspectivisme comme tel a pour finalité, en relativisant le point de vue, a pour finalité précisément de supprimer la relativité. Donc il ne faut pas rattacher l'idée du perspectivisme au relativisme. C'est ce qu'on fait, hein, surtout après Nietzsche, mais même chez Nietzsche. Hein. Mais Nietzsche, souvent... Nietzsche qui dit que effectivement tout est perspective, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours un point de vue à partir duquel on comprend, à partir duquel on synthétise, pour ainsi dire, le réel à travers la volonté. Mais Nietzsche dit bien que pour avoir une réelle objectivité, il faudrait voir le tout par des milliers d'yeux. Hein. Et voir le tout par des milliers d'yeux, c'est précisément varier les perspectives pour parvenir à une objectivité. La perspective, finalement, en herméneutique, a pour finalité de supprimer la relativité.
Et la dimension éthique est très présente alors dans cette réflexion.
Sur la compréhension.
Oui. Est-ce qu'elle s'ajoute à ce niveau-là ou...
Alors elle s'ajoute, oui. La réflexion éthique est très présente puisque c'est au fond sans doute l'une des dimensions philosophiques de l'acte de comprendre. Pour le dire en d'autres termes, la dimension éthique tient simplement, lorsqu'on comprend, lorsqu'on cherche à comprendre, on part de la non-compréhension. Je ne comprends pas, donc je cherche à comprendre. Lorsque, effectivement, je comprends immédiatement, il n'y a aucune volonté de comprendre. Or, dans cette non-compréhension, il y a la prise de conscience d'un sens étranger et par conséquent d'un certain respect ou d'une certaine considération, pour ainsi dire, de l'étranger, mais de l'étranger dans son étrangeté même. Et c'est à cela que peut se rattacher effectivement cette dimension éthique de la compréhension.
Et concernant la question du statut de l'objet de l'herméneutique, l'objet est-il ramené à un objet textuel nécessairement ? Il y a une variété d'objets. Vous l'avez évoqué, événements, actions, même dans le domaine esthétique ou artistique. Et comment est possible ensuite la généralisation, le processus de généralisation, comment opère-t-il selon tel ou tel objet ? Est-ce que l'objet a le même statut ? Est-ce qu'on peut dire les mêmes choses, avoir le même regard méthodologique sur tel ou tel objet ?
Oui. Là aussi, traditionnellement, je disais... Oui. L'herméneutique a affaire à des textes. Alors des textes, on les reconstruit à partir de la connaissance de la langue, à partir de la connaissance des genres littéraires, etc., de l'histoire, etc. L'herméneutique a été élargie effectivement à l'ensemble de l'action ou même à la connaissance du monde en général. Ricoeur, par exemple, juste pour prendre un exemple, hein, Ricoeur est quelqu'un qui dit que l'on peut comprendre ou que l'on doit comprendre l'action comme un texte, à partir de l'intention, etc. L'intention de l'auteur, etc. Certains disent qu'il faut lire le monde, c'est une idée classique même dans les sciences, qu'il faut lire le monde comme un texte qui serait écrit soit de la main divine, soit effectivement qu'il faut trouver le sens du monde en le lisant. Alors, il va de soi que de telles assimilations ne sont pas évidentes. Parce qu'il y a bien entendu une différence de nature, si vous voulez, entre le texte et l'action. C'est-à-dire que si je prends Ricoeur, hein, simplement, lorsque je compare le texte et l'action, ce que je compare, ce qui est à peu près identique, c'est la manière dont je peux, à travers un texte, rendre compte de l'action. C'est-à-dire la manière dont je peux décrire l'action à partir de l'intention de ce que je voulais faire, et je le construis ainsi comme un texte. Mais cela dit, je ne peux pas analyser une action comme j'analyse un texte, puisqu'ensuite, le texte, je peux y revenir, il est inscrit, etc. Je peux y revenir à sa lettre et l'étudier. L'action, elle est terminée, elle a un effet autre. Il n'y a pas d'interaction du même ordre. De même, nous dit, par exemple, quelqu'un comme Nelson Goodman, il n'y a pas de parallélisme entre le monde et le texte. Il n'y a pas de parallélisme entre le monde et un texte. Pourquoi ? Parce que le texte, je peux toujours revenir à la matérialité du texte. Le monde comme tel, qu'est-ce que le monde ? Le monde, c'est saisir le tout comme une unité. Or, ce monde saisi comme une unité n'est rien d'autre que déjà une activité de synthèse que j'ai opérée. Donc, le monde comme tel n'existe pas en dehors d'une première interprétation. Alors, dit Goodman, alors que le texte existe en dehors d'une telle interprétation. Je ne peux pas revenir au monde tel qu'il est, alors que je peux revenir au texte. Donc, le texte n'est pas structuré comme le monde. Donc, effectivement, l'herméneutique n'a pas le même statut. C'est pourquoi il faut être très, très prudent lorsqu'on importe des méthodes de l'herméneutique à l'interprétation à l'interprétation du monde, des choses, etc. La même chose vaut lorsqu'on essaye de comprendre, comme le fait Gadamer, lorsqu'on essaye de comprendre un texte sur le modèle, par exemple, du discours vivant. Dire qu'on dialogue avec un texte, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Extrêmement difficile. On ne dialogue pas avec un texte. Pourquoi ? Parce que le texte ne répond pas. On dialogue avec soi-même en lisant le texte. Donc, penser la compréhension du texte en termes de dialogue est là aussi quelque chose méthodologiquement de très contestable. Donc, il faut rester... L'avantage de l'herméneutique, c'est qu'elle donne un certain nombre de règles, mais elle ne donne pas du tout des règles universelles.
Est-ce qu'il y a des objets qui sont exclus par nature de la démarche herméneutique, qui ne peuvent pas se plier à l'exercice ou à la tâche de comprendre ?
C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que la difficulté, c'est la difficulté du signe, si vous voulez. À chaque fois qu'un sujet interprétant se trouve en face de quelque chose qu'il estime être un signe, c'est-à-dire dont il peut penser qu'il est doué d'une intention signifiante, et donc d'une subjectivité supposée, alors il peut interpréter. Ben, il peut se tromper. Hein. Il peut se tromper. On peut prendre quelque chose qui n'est doué d'aucune intention signifiante comme étant signifiante. Donc, en droit, l'herméneutique, oui, mais elle est liée à l'attente qu'un autre ait doté un objet de sens, et qu'il, de ce fait, il fasse signe. Ça, c'est une hypothèse, une conjecture.
C'est celui qui amène avec soi la démarche, de toute façon. C'est celui qui vient comprendre l'objet, qui amène avec lui également
la démarche
de herméneutique.
Absolument, parce que c'est lui qui, comme tel, pense que la chose fait signe. Et qui donc, de ce fait, est doué d'un sens et que lui doit donc reconstruire. Alors, que ce soit justifié ou pas. Parfois, ça ne l'est pas. On interprète, on surinterprète. On donne plus de sens à la chose qu'elle n'en avait initialement.
J'aimerais, si vous voulez bien, qu'on prenne un exemple, enfin, en tout cas, un des exemples que vous évoquez dans votre livre, notamment la question des poèmes. Il me semble que ça peut, enfin, vous l'évoquez tout en déplaçant également aussi le débat sur cette question, parce qu'effectivement, c'est lié au poème de Paul Celan. Donc, je voulais simplement évoquer le passage lorsque vous développez cette question à propos de Gadamer, effectivement. Donc, la thèse de Gadamer, qui affirme que même des poèmes hermétiques, comme ceux de Celan, doivent aussi pouvoir être compris par tout un chacun, puisqu'ils s'offrent à tout le monde, et qu'ils doivent donc pouvoir être interprétés de manière générale, sans la connaissance du détail philologique, et donc sans doute valable. Mais est-ce vraiment comprendre? On comprend quelque chose, certes, mais on ne comprend pas nécessairement le poème. On le comprend mieux en appuyant l'interprétation sur un travail philologique et historique. Comprendre connaît des degrés, disions-nous, mais comprendre vraiment signifie comprendre correctement. Une compréhension immédiate ne peut donc pas, en ce sens, être un modèle de la compréhension. Alors, c'est évidemment un passage aussi très riche où vous confrontez différentes positions sur le sens de comprendre. Car il me semble que, et là aussi, peut-être que c'est dans le que ça peut éclairer ce passage, je ne sais pas, vous me direz, dans Vérité et méthode, et vous le citez, quand Gadamer oppose comprendre mieux et comprendre autrement. Alors, quel est le sens, enfin, quel est le comprendre qu'il faut privilégier?
Oui. Bon, l'exemple ici de la poésie de Celan est relativement parlant parce que bon, c'est une poésie donc, comme je le disais, une poésie hermétique, de l'aveu même de Celan. Hein. Et vous lisez les poèmes de Celan, vous comprenez des choses, vous comprenez, bon, vous êtes saisi par des éléments, par la beauté, etc. Comme on peut l'être dans d'autres poèmes, hein, de Mallarmé ou d'autres, qui peuvent être plus ou moins hermétiques aussi. Et donc, de ce fait, on comprend quelque chose. Hein. Il nous parle et c'est ce qui fait qu'on est prêt à lire des poèmes même qu'on ne comprend pas très bien. Hein. Et on peut les lire même longtemps. Hein. Alors ça ne fait pas de problème pour moi qu'on puisse lire des poèmes hermétiques sans avoir fait tout un travail de recherche dessus. La seule chose que je voulais dire, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il y a des degrés de compréhension. Et lorsque Gadamer, par exemple, dit que de ce fait, la compréhension doit venir du poème lui-même et que comprendre n'est pas une méthode, on n'a pas besoin de faire toute une recherche philologique sur ce que Celan a voulu dire, quelles étaient ses recherches, trouver quels sont les termes, comment il les utilise, quelles sont la fréquence des termes, à quoi ça renvoie, etc., etc. Donc tout un travail philologique qui relève de la méthode. Gadamer, qui est très opposé à la méthode, pense que la vérité doit se révéler hein, par elle-même. Hein. C'est une vérité, si vous voulez, une vérité de par révélation, un peu comme chez Heidegger. Hein, les choses se manifestent, il faut les laisser être et elles se manifestent. Et donc, il a écrit son petit ouvrage, Je et tu, je crois que ça s'appelle, L'interprétation des poèmes de Celan, où il les interprète sans aucune connaissance philologique. Mais uniquement à partir de ce qu'on peut tirer de la lecture directe du poème. Alors c'est un type de compréhension. Ce que je disais, c'est que ce n'est pas le même degré de compréhension que celui qui a fait le travail, qui consiste à savoir dans quel contexte, contre quoi il écrit, contre quel poème il se dresse, contre quel type de littérature il travaille, etc., etc. Donc on comprend mieux lorsque on met en œuvre des méthodes. Et c'est là que je viens à la formule très célèbre de Gadamer qui dit, au fond, on ne comprend jamais mieux, on comprend autrement. Il le dit à propos de la formule suivant laquelle il faut comprendre un auteur mieux qu'il ne s'est lui-même compris. Donc Gadamer dit, on comprend jamais mieux, on comprend toujours autrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, au fond, on ne parviendra pas à saisir l'intention de l'auteur ou même le sens du texte. En soi, ce que nous faisons toujours, c'est appliquer notre compréhension à un texte qui nous est transmis. Et de ce fait, nous avons, à titre de compréhension appliquée, en fonction de nos connaissances, de notre connaissance du langage, des genres, etc., etc., nous avons une connaissance, une compréhension autre que celle qu'avait l'auteur. Donc nous sommes condamnés à comprendre autrement, en raison finalement d'une distance historique, etc. Cela, je l'entends parfaitement. Hein. C'est-à-dire qu'il va de soi que nous comprenons toujours autrement. À cause précisément, ne serait-ce que de l'historicité du sens, hein, qui se charge autrement, nous ne savons plus ce que savait l'auteur, nous savons d'autres choses, etc. Là où la chose devient plus difficile, c'est lorsque Gadamer fait de se comprendre autrement, non pas simplement le constat de l'historicité du sens, mais fait de cela un principe herméneutique. C'est-à-dire que du fait que l'on comprend autrement, on en vient très facilement chez lui à l'idée que, au fond, il n'y a pas d'effort à faire pour comprendre vraiment ce qui est dit. Et du côté, d'un point de vue méthodologique, si vous voulez, comprendre autrement est un très 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 mauvais idéal régulateur. Puisque lorsque je cherche à comprendre, je cherche à comprendre ce qui est dit ou ce que l'auteur a voulu dire, etc. Et donc je cherche à comprendre vraiment, puisque comprendre autrement, c'est quand même ne pas comprendre. Donc il me semble difficile de pouvoir ériger le comprendre autrement, qui est un fait, en une formule qui devient une formule de droit, et qui, de ce fait, invalide la possibilité même de comprendre. Comprendre autrement, c'est pas comprendre.
Alors pour essayer de saisir davantage les enjeux de l'herméneutique, au fond, comment s'effectue le partage entre philosophie et herméneutique, ou quels sont les bords ou les limites où l'herméneutique rencontre la philosophie? Donc juste un point pour qu'on puisse aussi avoir quelques références d'auteurs. Ou... Donc d'abord l'herméneutique, et vous l'avez dit, il y a une herméneutique traditionnelle, une herméneutique philosophique, herméneutique critique également. L'herméneutique touche à des problématiques communes avec par exemple la philosophie analytique, la phénoménologie. Alors, pour qu'on puisse saisir ce partage, pourriez-vous nous donner quelques précisions sur à la fois les auteurs et les frontières?
Oui. L'herméneutique en tant que philosophie, enfin, il faut distinguer, pour le dire très vite, il faut distinguer l'herméneutique en tant que technique, hein, ce qui est le point de départ, méthodologie donc de la compréhension. Vous avez ensuite un certain type d'herméneutique qui devient philosophique, c'est celle qui me semble devoir être le plus élaborée, qui est une herméneutique qui réfléchit à sa propre pratique, c'est-à-dire qui réfléchit aux conditions de possibilité de la compréhension, hein, tant d'un point de vue épistémologique que d'un point de vue simplement méthodologique. Hein. Que faire pour comprendre et que signifie comprendre, quelles sont les conditions de possibilité de cette compréhension. C'est ce que fait un peu Kant, si vous voulez, par rapport à la connaissance scientifique. C'est ce que font ensuite des penseurs du XXe siècle, Cassirer, que j'ai cité tout à l'heure. Lorsqu'il parle, lui, il essaye de comprendre non pas des objets comme tels, mais il essaye de comprendre les fonctions de l'esprit qui rendent possible la compréhension, que ce soit à travers l'art, à travers le langage, à travers la science, etc. Donc il y a différentes dimensions d'une philosophie qui réfléchit donc de manière autocritique à ce que c'est que comprendre. Ça, c'est la dimension d'une philosophie herméneutique. La troisième dimension est celle justement de Heidegger ou de Gadamer qui disent que qui renvoient une ontologie en disant que il s'agit de comprendre ce que c'est que l'être de cet homme dont l'être est de comprendre ou de se rapporter compréhensivement à son être. C'était ça. Alors, par rapport à la philosophie analytique, ce qu'il y a dans la philosophie analytique et l'herméneutique, en fait, sont deux aspects qui s'ignorent. Pour une raison très simple, c'est que l'herméneutique a une tradition essentiellement allemande. La philosophie analytique, tout en ayant cette tradition initialement essentiellement allemande, par le pli anglo-saxon, a récusé ou n'a pas tenu compte, si vous voulez, de la philosophie herméneutique. Il va de soi que la problématique de départ, qui est de savoir ce que c'est que comprendre et comment il faut faire pour comprendre, est présente tant dans la philosophie analytique que dans la philosophie dite herméneutique, et que les travaux contemporains ont plutôt tendance à essayer de voir en quoi les deux peuvent se compléter. Alors cela tend en partant de l'herméneutique qu'en partant de la philosophie analytique. Hein. Quelqu'un comme Rorty, ou même, j'ai vu dans Cité Philo, le McDowell, John McDowell, vont dans ce sens-là.
Et alors, de quelle manière peut s'élaborer à partir de l'herméneutique et donc aussi de l'interprétation des textes et des discours une conception ou des conceptions du monde ?
Oui. Alors là, l'idée, si vous voulez, l'idée m'en est venue essentiellement à partir de l'un des auteurs que je n'ai pas encore cité, mais qui est important pour comprendre ce que c'est que l'herméneutique, qui est Wilhelm Dilthey. Dilthey, pour le dire très très rapidement, Dilthey est quelqu'un qui est formé à l'école herméneutique, puisqu'il est très influencé par l'un des fondateurs, à savoir Schleiermacher, formé à l'école herméneutique, la méthodologie justement philologique, et essaye d'importer cette méthodologie dans les sciences historiques, dans sa fondation des sciences de l'esprit, en disant que le propre des sciences de l'esprit est d'interpréter le sens que l'esprit a donné à ce qui est, puisque l'esprit ne comprend que ce que l'esprit a créé. Et donc ce sens-là. Et il reprend l'idée kantienne suivant laquelle le propre de la raison est de tendre vers des idées totales, vers des idées totalisantes. Et donc de ce fait, d'interpréter l'intégralité de ce qui est dans une de ces idées qu'il appelle monde. Et pour Dilthey, bon, il s'agit de partir d'une image du monde, de l'image du monde qui nous entoure, d'intégrer des valeurs, des connaissances, etc., et de les totaliser à chaque instant. Donc, à ce titre, si vous voulez, le propre du travail de l'interprétation, si comprendre est totaliser, l'idée dernière d'une compréhension totalisante est de forger un monde. C'est ce que dit Dilthey en parlant de conception du monde, c'est ce que dit Cassirer lorsqu'il parle de monde symbolique, hein, on forge une totalité qui est le monde, par exemple, de l'art ou le monde du mythe, hein, etc. Et c'est ce que dit aussi Goodman, pour renvoyer à la philosophie analytique, qui en est le pendant. Goodman, par exemple, lorsqu'il parle des manières de faire des mondes. Donc, à ce titre, dans cet élan de la compréhension, la totalisation finale débouche sur ce qu'on peut appeler une conception du monde, qu'il ne faut pas du tout voir comme étant quelque chose de rigide, hein, puisque les conceptions changent au fur et à mesure des interprétations, puisque le sens lui-même est pris dans le temps.
Est-ce un monde de la culture, par exemple ? Pas nécessairement, c'est pas la constitution d'un monde de sens et un monde culturel.
Une conception du monde.
Oui.
Une conception du monde est une dotation de sens, oui. Et qui donc, à ce titre, est un monde de la culture. Hein. Oui, si. Absolument. C'est une manière de donner un sens. C'est comme ce que je disais tout à l'heure à propos pour reprendre l'exemple simple des idées kantiennes. Soit on conçoit le monde comme étant déterminé en dernier ressort par l'idée du déterminisme causal, auquel cas on a une conception déterministe du monde, soit on le considère comme étant déterminé en dernier ressort par la liberté, on a une conception morale du monde, en pouvant changer bien entendu de conception. Il va de soi que dans l'histoire même individuelle, on révise sans cesse nos conceptions du monde et on reforme, mais à chaque fois le propre de la compréhension est de tendre vers une totalisation.
Et intégrer à la fois une dimension scientifique dans la première partie du déterminisme et plutôt morale ou éthique dans le deuxième aspect.
Bien sûr.
Voilà.
Absolument.
Et alors, pourquoi avoir intitulé la dernière partie de votre livre, enfin, et qui renvoie également au titre, la question du détour, l'art du détour ou au détour du sens. Peut-être, je voudrais juste aussi citer un extrait de votre livre à propos de Cassirer. Peut-être que c'est aussi dans ce contexte que vous nous l'expliquez. C'est pourquoi le monde de l'esprit, je vous cite, et ensuite il y a une citation de Cassirer, c'est pourquoi le monde de l'esprit humain est à proprement parler celui où s'accomplit l'art du détour. Et là, vous donnez une citation de Cassirer. Le monde de l'esprit humain, donc c'est ce que nous venons aussi de parler, tel qu'il est édifié dans le langage et dans l'utilisation d'outils, dans la représentation artistique et dans la connaissance conceptuelle, ne signifie rien d'autre que le constant art du détour, toujours amplifié et raffiné.
Euh, Grosso modo, cela signifie que la compréhension n'est jamais immédiate, que la compréhension passe nécessairement par des médiations, et que donner du que la culture ou donner du sens, c'est pour ça que lui parle à la fin d'une logique des sciences de la culture, après les formes symboliques, le propre de la culture est la négation de l'immédiateté du sens. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a de sens qu'à travers ce détour. Il n'y a pas de sens immédiat. C'est ça l'idée de Cassirer que je reprends et que je fais volontiers mienne. C'est-à-dire que l'idée de l'herméneutique est, et c'est en cela qu'elle se distingue en grande partie de la phénoménologie. Dans la phénoménologie, on a quand même l'idée qu'un sens peut apparaître. Dans l'herméneutique, on a l'idée que le sens pour apparaître doit être construit. Et cela, il doit le faire à partir d'un certain nombre de méthodes. Et donc à travers un travail du détour. Il n'y a pas d'accès à l'immédiat. Il ne s'agit pas, contrairement à la phénoménologie, il n'y a pas du tout de pensée de l'immédiateté du sens.
Est-ce que cette justement nécessité d'échapper à l'immédiat ou de le comprendre d'un autre point de vue, ça implique que la philosophie herméneutique est une philosophie de l'histoire? Il y a nécessairement une historicité, mais vous l'avez dit. Alors, faut-il insister sur cet aspect ou au contraire valoriser l'aspect plutôt anhistorique de la méthode? Parce que la culture, c'est aussi être dans l'histoire, être dans son temps, dans son monde. Donc, il y a aussi une direction qui est pointée vers l'histoire.
Bien sûr. Le propre de l'herméneutique est de penser l'historicité du sens. Oui. C'est-à-dire que le sens a été construit à un moment donné, et pour le comprendre, il faut le reconstruire à un autre moment, le sens n'étant plus le même, bien entendu, et c'est ainsi que la méthode de l'herméneutique, qui est justement de passer, de retrouver le sens de quelque chose de passé tout en sachant que l'on doit tenir compte du présent pour reconstruire ce sens, c'est à ce titre que l'herméneutique ou les méthodes de l'herméneutique ont pu être transposé dans les sciences dites historiques, puisque le mouvement premier de l'herméneutique vers la philosophie est passé de l'herméneutique philologique de l'interprétation des textes vers une herméneutique qui sert de fondement aux sciences historiques, comment comprendre le sens individuel des actions historiques, et ensuite généralisé aux sciences de l'esprit et aux sciences de la culture.
Et plus proche de nous, alors, est-ce que on pourrait dire que Paul Ricoeur est au fond parmi les derniers, ou est le représentant de, en tout cas, d'une certaine herméneutique? On n'a pas beaucoup parlé de Paul Ricoeur, mais qui est au fond assez proche aussi, très contemporain de nous. Est-ce qu'il est le dernier représentant ou un des plus importants représentants de l'herméneutique comme tentative de concilier pour lui la tâche philosophique et la tâche scientifique?
Oui, Paul Ricoeur, bon, en France en tout cas, est le représentant le plus connu de l'herméneutique. Enfin, qui se revendique de l'herméneutique. Alors, Paul Ricoeur, bien entendu, a un certain nombre de théories tout ce qu'on appelle la narratologie, etc., théorie de la narration, toute son analyse de la temporalité, etc., où il emprunte beaucoup aux auteurs relevant de l'herméneutique. D'une manière générale, disons que je pense que Ricoeur, au fond, est quelqu'un qui reste très très proche de Heidegger et de Gadamer. Extrêmement proche, beaucoup plus proche qu'on ne le dit. Parce que Ricoeur est quelqu'un qui veut toujours concilier des thèses qui sont finalement assez opposées. Il veut réconcilier, expliquer et comprendre, par exemple. Il veut concilier la phénoménologie et l'herméneutique, etc. Il veut réconcilier la vérité et la méthode. À mon sens, l'idée fondamentale de Ricoeur dans l'interprétation, et notamment dans l'interprétation des textes, est une thèse heideggerienne et gadamerienne, dans la mesure où il dit que les textes, finalement, disent quelque chose qui est antérieur au texte. Qu'il y a un être à dire qui, finalement, finit par être dit dans le texte, et qu'il y a donc un monde qui se présente dans le texte. Un être au monde antérieur à l'auteur lui-même. Ce qui est exactement l'analyse gadamerienne et heideggerienne. Alors ça, je vous invite à le lire. Il le dit tout à fait explicitement dans un petit texte qui résume ce qu'il entend par interprétation dans Du texte à l'action, où dans cet article, qui est un article d'encyclopédie au départ, il dit bel et bien que le texte porte, dit un être à dire antérieur au texte. Et donc c'est l'être finalement qui s'exprime, ce qui n'est pas tout à fait l'herméneutique traditionnelle.
Et alors justement, quel auteur vous nous conseilleriez de lire dans l'herméneutique traditionnelle ? Pour commencer, pour ceux qui voudraient essayer de prolonger notre discussion à partir de votre livre également, et pour aller voir les textes.
Bon, pour l'herméneutique traditionnelle, bon, le premier à voir, c'est Schleiermacher qui élabore les méthodes, les règles de l'interprétation. Ce serait le premier à voir. Alors, ensuite, je conseillerais, malgré ce que j'ai dit, de regarder quelques textes de Ricoeur, qui donnent une idée générale, dans Du texte à l'action, notamment cet article sur l'interprétation, et dans ses premiers essais herméneutiques qui s'appellent Le conflit des interprétations, où vous avez un petit texte qui, comme introduction, est parfait, qui s'intitule Existence et herméneutique. Ça, c'est très clair, c'est très bien.
Il ne nous reste plus qu'à aller les lire. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Christian Berner. C'est un débat très intéressant. Je voudrais maintenant vous tendre le micro s'il y a des questions. Je crois que je vais prendre ce micro.
Bonjour. Merci pour cette conférence intéressante. J'ai eu du mal à comprendre le problème de l'herméneutique par rapport à Heidegger et le problème ontologique en fait, puisque, enfin, est-ce que dans la psychanalyse on peut dire que finalement il y a un certain degré herméneutique dans la compréhension et l'interprétation de son propre être?
Alors, il y a de l'herméneutique dans la psychanalyse, c'est évident, hein, puisqu'il s'agit effectivement de trouver le sens caché à partir de manifestations, etc. Donc, il y a une herméneutique, une activité d'interprétation. Est-ce que, alors là, c'est tout un débat, est-ce que cette compréhension du sens, hein, est une compréhension ontologique, c'est-à-dire à avoir avec l'être même, justement, qu'on cherche à comprendre? Je n'en suis pas sûr, hein. Pour moi, le discours ontologique est toujours difficile, si vous voulez. Toujours difficile. Moi, je n'ontologiserai pas, hein, au départ. Cela dit, il y a une herméneutique psychanalytique, bien entendu, puisqu'on interprète pour dégager un sens. Est-ce que c'est le sens de l'être? Non, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais...
Est-ce que vous pourriez alors préciser finalement votre définition particulière de l'ontologie?
Alors l'ontologie ici, c'est tout simplement la compréhension de l'être, une compréhension première, si vous voulez, des catégories fondamentales de ce qui constitue l'être. Pour moi, dans la mesure où l'herméneutique est toujours seconde, c'est pas une philosophie première, c'est une philosophie seconde, c'est-à-dire on a affaire à des dotations de sens, si vous voulez. Et donc pour moi, le sens, si on a affaire au sens de l'être, si vous voulez, c'est quelque chose qui transcende notre être là. Et la manière, justement, dont nous donnons du sens.
Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Gegen est attendu à l'accueil du magasin. Monsieur Gegen, merci.
Pour moi, cela signifie tout simplement que l'on attend, qu'il y a une certaine transcendance du sens. Et pour moi, la transcendance du sens comme telle, qui est un héritage théologique, la transcendance du sens n'est pas parlante, si vous voulez.
D'autres interventions, oui. Monsieur.
Je vous remercie également pour ce très riche exposé qui me donne très envie de lire votre ouvrage. C'est vrai que l'herméneutique est d'une grande subtilité, et c'est au fond autour de cela que tournent mes questions, parce que ça a remué pas mal de choses en moi, de mes souvenirs philosophiques, si je puis dire. Mais malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. Je ne viens pas tellement de cette tradition-là de l'herméneutique, donc je reste humble et je vous pose des questions à ce niveau-là. Mais justement, à l'intérieur de la philosophie, vous avez dit par exemple, j'ai plusieurs questions là, mais elles tournent toutes autour de la même question, je crois, la même idée. Par exemple, vous avez dit, le commencement de la philosophie, c'est la volonté de comprendre, chez Aristote, vous avez dit, mais chez Socrate, c'est la volonté de connaître, connais-toi toi-même, par exemple. Je veux dire, il y a au sein de la philosophie un conflit entre connaître et comprendre, peut-être. Il faudrait ou alors la question est, quelle est la différence entre connaître et comprendre? Donc c'est déjà ça ma question. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ce serait désespérant pour le philosophe, d'une certaine façon, du moins s'il est cartésien, qui déjà doute, mais alors l'herméneuticien, je crois qu'il doute encore beaucoup plus du sens, etc. Ce qui peut d'ailleurs conduire, comme vous l'avez bien dit, au sens relatif, mais même au non-sens. Ça, ce serait une autre question que j'avais voulu poser. Il désespère de ne jamais connaître. Et à ce moment-là, la philosophie, qu'est-ce que c'est encore? Et vous avez aussi même parlé de la révélation. Il y a aussi un conflit à ce niveau-là, je crois, en philosophie, entre anthologie et philosophie, etc. Mais aussi entre l'idée de révélation, d'apparaître, qui vous donne le sens immédiatement, et puis la non-immédiateté, et puis bon, il faudrait rentrer dans toutes ces distinctions-là. Donc, comme je vous ai dit, alors une autre question un peu plus pointue, quelle est la différence? Je veux dire, moi qui suis germanophone, et vous avez traduit, vous avez lu les textes dans l'original, si j'ai bien compris, donc vous avez bien compris, par exemple, l'idée de compréhension, je viens de mon begreifen, donc c'est encore une autre connotation du griffe, de saisir. Bon, mais justement, c'est une autre question là, est-ce que l'herméneutique n'est pas typiquement allemand? Vite, c'est pas un jugement de valeur que je porte, elle est d'origine protestante, c'est-à-dire critique biblique, l'exégèse biblique, les textes. Et c'est dans ce sens-là qu'elle n'est pas vraiment rentrée, elle vient de la philologie, si vous l'avez dit, et dans ce sens-là, elle n'est pas vraiment rentrée dans la tradition française. Par exemple, Roland Barthes, lui, pourquoi il ne s'intéresse pas, puisqu'il s'intéresse au sens, pourquoi il ne s'intéresse pas à l'herméneutique, il va inventer une sémiologie. Par exemple, je veux dire, là, il y a aussi une espèce d'opposition toujours entre la France et la philosophie allemande. Un transvasement, un va-et-vient, et d'ailleurs c'est au niveau de Heidegger qu'il y a peut-être la charnière qui s'ouvre ou qui se ferme, je ne sais pas. Voilà, j'avais d'autres questions encore, je ne sais pas, je vais m'arrêter là.
Merci. Bon, oui, je vais commencer par la première, hein, que j'ai noté, grosso modo l'opposition entre connaître et comprendre. Alors je vous dis tout de suite, en allemand, pour comprendre, compréhension, etc., le terme qui est utilisé, c'est toujours verstehen. Verstehen, toujours. Verstehen, qui renvoie à Verstand, ensuite à l'entendement. Et begreifen, je rendrai moi. Begreifen par saisir conceptuellement. Oui, c'est plutôt hegelien. Mais bon, c'est Verstehen, le terme usuel. C'est... Absolument. Oui. Justement, et c'est là que je voulais en venir, c'est que l'opposition entre connaître et comprendre est très délicate, est très très délicate. Elle est très délicate parce que il suffit de regarder par exemple ce qu'on dit d'habitude. On dit on connaît l'universel et on comprend le singulier. Hein? C'est comme ça qu'on oppose connaître et comprendre. On connaît l'universel, on comprend le singulier. C'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident, parce que signifie comprendre? Comprendre signifie, si on s'en tient à la définition que j'ai donnée, intégrer, pour ainsi dire, le singulier dans l'universel, tout simplement. Et par conséquent, connaître, c'est une façon de comprendre. Et il va de soi que quand je connais quelque chose, c'est que je l'ai compris dans le langage ordinaire. Et lorsque Kant parle par Verstehen, Verstehen, c'est pas du tout comprendre quelque chose de singulier. Verstehen, c'est la catégorie suprême de la connaissance. Même Erkennen est en dessous. Erkennen, qu'on traduit par connaître, est situé en dessous. En d'autres termes, je prends le terme de comprendre au sens le plus général. Et donc, à ce titre, je n'oppose pas compréhension et connaissance. De même que je n'oppose pas compréhension et explication. Parce que expliquer, c'est un des moyens de comprendre. Purement et simplement. Et donc ça s'inscrit, si vous voulez, dans un processus qui est général. Donc voilà pour ce qui est de connaître, comprendre, etc. Là où vous avez certainement raison, c'est sur la difficulté qu'il y a pour introduire en France l'herméneutique, et que c'est sans doute lié là aussi à quelque chose d'assez ancien, et sans doute aussi lié entre le protestantisme et le catholicisme. Pour le dire très très rapidement, là où l'herméneutique s'est vraiment développée. C'est effectivement l'herméneutique protestante en Allemagne qui a ensuite influencé la philosophie allemande. Pourquoi ? Parce que dans le protestantisme allemand, tout à coup, la Bible devient un texte qui s'adresse, ou Dieu comme auteur, s'adresse directement à un lecteur qui peut le comprendre sans avoir recours à quelqu'un qui a une autorité extérieure, l'Église, hein, dans le cadre du catholicisme, qui a toujours déjà, qui est garante, si vous voulez, de la vérité du sens, et qui n'appelle donc pas à l'interprétation, sauf pour trouver l'adéquation avec le sens transmis par la tradition, ce qu'on appelle l'interprétation allégorique, celle qui consiste à trouver, lorsque le sens littéral est insuffisant, à trouver très vite qu'il y a un second sens pour ainsi dire, qui concorde finalement avec l'autorité de la tradition. Donc l'herméneutique est effectivement très souvent développée dans l'herméneutique protestante, hein, comme telle. Voilà. Mais précisément en ce que vous avez dit, c'est-à-dire que il me semble que Hegel, dans son mouvement de totalisation, intègre l'altérité. C'est-à-dire qu'il ne fait pas, la place réelle, si vous voulez, à l'altérité du sens. Si on voulait autre chose, le seul moment, si vous voulez, où la chose pourrait se présenter de manière vraiment très forte, c'est dans sa compréhension de la dialectique. Vous avez un moment immédiat, et vous avez le second moment, le moment de la négativité. Et lorsque la chose s'aliène, elle devient autre, lorsqu'on séjourne, comme il le dit, dans le négatif, c'est-à-dire dans cette altérité, on a effectivement, là on est confronté à un moment herméneutique, avant d'être saisi, avant d'être repris, disons, dans un mouvement de globalisation. Cela reste toujours au sein d'un développement immanent de la raison. Et chez Kant, effectivement, je sens, d'un côté, c'est un philosophe des Lumières, il croit vraiment très fortement à la raison universelle, partagée par tous, etc. Mais il croit aussi très profondément qu'on ne saurait accéder à la vérité tout seul. Et ça, c'est parce que c'est un penseur de la finitude radicale. Et donc, c'est cette finitude radicale qui fait que je dois m'en remettre à autrui dans la recherche du vrai. Raison pour laquelle, donc, la critique de la raison pure élabore le cadre de la communication de la connaissance. Qu'est-ce que je peux transmettre ? Ben, je peux transmettre la façon dont nous construisons tous identiquement la réalité, espace-temps, avec nos catégories, par exemple la causalité, dont nous construisons tous identiquement le réel. Ça, je peux le transmettre. Ce que je reçois en matière, je ne peux pas le transmettre, c'est absolument singulier. Donc je transmets la façon dont je construis le réel, et je dois le confronter, cette fois, à autrui. Raison pour laquelle, donc, la critique de la raison pure est une théorie de la publicité possible. Je peux rendre publique la science, et elle se termine, non pas sur une théorie du savoir, mais sur une théorie. Donc à ce titre, c'est pas une théorie à proprement parler de la connaissance, c'est pas ça qui lui importait. Ce qui lui importait, c'est de savoir jusqu'où nos totalisations, puisque le problème est métaphysique au départ, jusqu'où nos totalisations peuvent être partagées.
La connaissance n'est qu'un aspect.
La connaissance n'est qu'un aspect. N'est qu'un aspect dans la recherche de la vérité, mais ce qu'il cherche, c'est la compréhension en général. Et quand j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, pourquoi Kant reste tellement attaché à ses cours de géographie ? Toute sa vie des cours de géographie. C'est qu'il a un sens, si vous voulez, de l'altérité.
Question un petit peu... Ah oui, il y a des questions. Oui. Il y a monsieur derrière, après on reviendra à vous.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé la clarté sur ce que vous avez dit entre connaître et comprendre, mais... Vous avez très peu éclairé la question de l'herméneutique de l'art. Hein, l'herméneutique de l'art prend un grand développement. Et je me demande si dans votre présentation, vous n'avez pas édulcoré un peu le fossé qui est entre Schleiermacher et Kant. Parce que, au fond, la question que vous avez posée à propos de connaître et comprendre, c'est que dans l'art, on y ajoute le problème de Kant, à savoir l'émotion. Hein, je prends un exemple très simple. Vous prenez un Kantien comme un anthropologue d'aujourd'hui, Godelier. Godelier veut essayer une sorte d'esthétique de la compréhension et donc de l'émotion lorsqu'il veut comprendre le rapport d'un primitif, son guet-manier, qui est une sorte de petit sac avec des anciens os ou petits bijoux de l'ancêtre. Alors quand vous êtes anthropologue, vous êtes à la fois devant un objet d'art de l'art premier, enfin du primitif, et vous êtes dans la situation, qu'est-ce que je vais choisir, ma projection, un peu comme Heidegger qui nous a seriné de ses projections sur les souliers de Van Gogh. Depuis, on sait quand même qu'il n'avait rien compris, au fond, puisqu'il n'avait même pas ressenti l'émotion de Van Gogh qui avait fait que Van Gogh avait bien choisi ces souliers-là pour représenter tout son pèlerinage, en quelque sorte. Eh bien, on se trouve devant ce problème de connaître et comprendre. Dans le comprendre, ce que le français ou n'importe qui veut, c'est aussi y ajouter une émotion. Or, vous savez bien que chez Kant, l'émotion, elle remplace le sens commun de Descartes. Il y a la possibilité d'une œuvre d'art parce que il y aurait un universel de l'émotion, une émotion de l'émotion qu'on pourrait attendre et qui serait le beau. Est-ce que c'est pas le vrai problème qui coupe justement la tradition un peu stupide qui va de Kant aux idioties d'Heidegger? Et par contre, je trouve que vous avez bien défendu Schleiermacher, mais sans étayer vraiment le grand fossé qui est entre Schleiermacher et même aussi chez Ernst Cassirer, dont vous rappelez qu'il est néo-kantien, mais au fond que sa vision d'un monde virtuel, du monde culturel, enfin du monde symbolique, fait qu'en fait il est beaucoup plus proche de Schleiermacher que de Kant, parce qu'il ne croit pas à cette fumeuse théorie de l'émotion de chez Kant, qu'on retrouve d'ailleurs sciée par quelques autres textes de Cassirer, parce qu'il a très bien compris qu'au fond, on est obligé de construire quelque chose dans l'herméneutique de l'art, ce que n'avait pas compris Heidegger, et qui veut toujours y mettre ce que vous avez dénoncé chez Gadamer et lui, c'est-à-dire une sorte de transcendance ontologique, hein, et est-ce que c'est pas le vrai d'ailleurs débat d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut aller vers un objet d'art sans supposer une émotion devant un masque d'Ogon, etc.? Qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, Godelier lui-même se trouve incapable, dans l'énigme du don, de nous révéler comment on va faire pour ressentir l'émotion d'un Dogon face à son masque.
Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, parce que je comprends ce que vous dites, hein. Je le partage. Je partage peut-être pas tellement votre jugement très sévère à l'égard de Kant, plus à l'égard de Heidegger, mais à l'égard de Kant, parce que pour ce qui est de l'émotion, si vous voulez, ce qui me paraît intéressant dans le jugement esthétique chez Kant, c'est que c'est pas tellement l'émotion, c'est qu'on y fait l'expérience. Et là, quelque part, il y a une certaine réceptivité, l'expérience qu'il y a du sens là-dedans. Hein. Lorsque je porte le jugement sur le jugement de beau, hein, le jugement de goût, lorsque je porte le jugement de goût, à travers ce jugement réfléchissant ou à travers cet équilibre entre nos facultés, etc., tout à coup, je dis de la chose, parce que je l'ai senti, effectivement, je dis de la chose qu'elle est belle. Dire que de la chose qu'elle est belle, c'est dire qu'il y a un sens, même conceptuel, puisque le beau est comme tel devient un concept, du coup, puisque j'ai un jugement, hein, je dis quelque chose de quelque chose, donc je dis qu'il y a un sens dans ce que je vois. Alors ensuite, bien entendu, cette émotion, d'abord, elle est universelle en droit, bon, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que j'estime que tout le monde, parce que je pense qu'il y a un sens, je pense que tout le monde doit pouvoir trouver ici ce sens, mais ce que dit Kant quand même, c'est que cela fait parler, c'est-à-dire qu'on appelle l'interprétation comme tel. Et le beau comme tel doit se justifier, ce qui invalide un peu disons l'absence, si vous voulez, d'interprétation, ou le fait que l'on s'en tienne qu'à l'émotion, hein, chez Kant. Il me semble que cela appelle le discours, hein, le jugement esthétique. Non, chez Schleiermacher, il ne tourne pas en rond, parce qu'effectivement, il se dote d'une méthode d'interprétation qui fait effectivement qu'on ne peut pas interpréter les souliers de Van Gogh comme l'a fait Heidegger. parce que et qu'on ne peut pas interpréter les poèmes de Celan comme le fait Gadamer, parce qu'il y a une méthode d'interprétation et qu'on peut distinguer une interprétation valide qui justement permet un resserrement de la connexion, parce qu'on peut dire tout de n'importe quoi, mais effectivement, tant qu'on n'a pas la méthode qui permet de, comme je dis, hein, de resserrer les connexions, c'est ça comprendre, hein, tant qu'on n'a pas la méthode qui permet de le faire, alors effectivement on ne comprend que très mal. Là je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais alors, savoir si on peut effectivement comprendre une émotion, non.
Merci. Vous avez beaucoup parlé plutôt de Schleiermacher. Ça m'a aussi un peu étonné. Ça ne va pas étonner, je connais comment la dialectique. Il a fait un livre sur Platon, c'est ça, où il analyse la dialectique de Platon et à partir de là, il va construire son herméneutique. Je simplifie peut-être. Mais je veux dire, il y a aussi son ouvrage Discours de la religion. Et vous, quel rapport, qui est plutôt dans la mouvance romantique, c'est-à-dire plutôt une espèce d'inspiration peut-être, c'est plus complexe que ça, mais justement, est-ce que ça ne contredit pas ça? Comment conciliez-vous cette conception herméneutique et romantique chez Schleiermacher? Ça, c'est une première question. Mais la deuxième, qui va plus dans ce que vous disiez tout à l'heure, parce que là, je voudrais quand même formuler une critique. Parce que remettre l'herméneutique dans la méthodologie, si je veux faire de l'herméneutique plutôt une méthodologie qu'une ontologie. Donc là, vous critiquez quand même Heidegger, etc. Donc, ma question est, qu'est-ce que la méthodologie a perdu en quittant l'ontologie? Pas forcément heideggerienne, mais est-ce que une méthodologie, par définition, puisqu'elle n'est pas ontologique, ne perd pas quelque chose de philosophique en plus? Vous comprenez ce que je veux dire? D'ailleurs, je pense que ça c'est aussi typiquement dans la pensée traditionnelle allemande, vous avez cité Cassirer. C'est d'ailleurs, on pourrait se dire comment ça, on peut rapprocher ça de la philosophie analytique, parce qu'analytique, logiciste, physicaliste, comment, quel rapport? Alors, non, mais ma question est-ce que Cassirer, on ne vient pas juste, est-ce que, à partir de Delty d'ailleurs, Delty qui va interpréter Hegel, ils ne vont pas introduire la notion de constructivisme? Parce que, bon, vous avez parlé, je crois, parce que je pense qu'au centre de la problématique, c'est l'immédiateté. Or, chez Heidegger, ou disons que vous avez parlé de révélation de l'immédiat. Je ne sais pas si c'est vraiment chez Heidegger, mais on peut dire c'est révélation de l'immédiat. Or, la construction, ça permet la médiation plutôt, non? C'est la construction du média. Donc, c'est là, à mon avis, qu'il y a aussi une opposition qui n'est pas forcément évidente. Je veux dire, moi, je ne suis pas cassirérien de ce point de vue-là. Je crois qu'au contraire, il va récupérer l'ontologie sous une forme méthodologique, ou plutôt, il va la critiquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils vont faire rentrer. Moi, j'ai fait une thèse sur Rosenzweig. Il y a aussi les néo-kantiens. Donc c'est comme ça qu'ils vont faire introduire Kant, réintroduire Kant contre Hegel aussi. Il y a quand même là un conflit quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? À l'intérieur même de la philosophie allemande, qui part peut-être de Delty encore une fois, puisque lui, il a réinterprété Hegel dans un sens constructiviste.
Ça fait peut-être beaucoup de choses, mais sur Schleiermacher, c'est vrai, peut-être c'est un auteur qui est sans doute peu connu du public. Alors, vous l'avez traduit, vous le connaissez bien.
Alors, Schleiermacher, oui, qui en Allemagne est un penseur donc romantique, effectivement, mais aussi l'un des grands penseurs de l'idéalisme allemand, hein, dans lequel on le range pas systématiquement, mais il était aussi important que Fichte, Schelling ou Hegel, hein, à l'époque, au début du XIXe siècle. Donc Schleiermacher, théologien, philosophe et philologue allemand, traducteur de Platon, c'est encore une traduction courante, hein, en Allemagne, et a été conduit en tant que traducteur de Platon et en tant que théologien, c'est-à-dire en tant qu'interprète essentiellement ce qu'on faisait à l'époque du Nouveau Testament, à élaborer une théorie de l'interprétation. Donc il élabore une méthode de l'herméneutique. Cette méthode qui établit le sens des textes n'est pas à son sens philosophique. La philosophie pour lui se trouve dans ce qu'il appelle la dialectique, qui est exactement le pendant de la science de la logique hegelienne ou de la théorie de la science fichtéenne, qui établit comment parvenir à la vérité. Et pour Schleiermacher, se référant à Platon, la vérité s'établit dans le dialogue. À travers l'idée romantique de la sumphilosophie, c'est-à-dire de penser soi-même en commun avec d'autres, comme faisaient les jeunes romantiques Schlegel, Schleiermacher, ensemble. penser soi-même en commun avec d'autres qui n'est rien d'autre que la reprise des deux maximes kantiennes, penser soi-même et penser en se mettant à la place de chaque autre. Le tout dans le cadre d'une pensée conséquente. Non, ce n'est pas que ça, mais c'est... Alors, je réduis en partie au sensus communis de chez Kant pour une raison très simple, c'est que c'est l'idée même de la dialectique de Schleiermacher, à savoir que la vérité ne s'établit que dans le dialogue entre les différentes prétentions au savoir, et que c'est là que se trouve le fondement de la philosophie. C'est pour ça que je lis Schleiermacher en le détachant effectivement du romantisme premier. Hein.
Non, ça permet comme ça de...
Alors, pour entrer très rapidement dans le détail, mais en deux secondes, vous avez chez Kant plusieurs occurrences de penser à la place en se mettant à la place de chaque autre. Vous avez une occurrence, la première, qui se trouve dans la critique de la faculté de juger, où il dit qu'on se met à la place de chaque autre en faisant abstraction de ce qui nous singularise, c'est-à-dire précisément de l'émotion, du sentiment, etc. Ce qui est éminemment problématique, puisque c'est moi-même qui décide de ce qui me singularise et que, de ce fait, je ne vois pas très bien comment je rencontrerai l'autre. Vous avez ensuite une occurrence dans les cours de logique de Kant où penser à la place de chaque autre se fait de façon idéale en variant les différentes positions, donc un conflit si vous voulez de propositions, et qui de ce fait permet de corriger, hein. C'est définir la vérité, et ça l'expression française est belle et vaut d'être dite, définit la vérité comme correction par rapport à autrui. La correction de la pensée comme vérité. Et troisième occurrence, c'est celle que vous trouvez dans l'anthropologie, où Kant dit qu'il faut se mettre à la place réelle de chaque autre, c'est-à-dire laisser parler chaque autre concrètement. Et alors là, la question est de savoir si effectivement on est capable de le comprendre. C'est-à-dire si lorsqu'il parle, je pense ce qu'il pense lorsqu'il dit ce qu'il dit. C'est l'une des difficultés. Pour Kant, c'est une difficulté. Comment vraiment avoir affaire à de l'étranger? Comment ne pas rester enfermé dans sa raison?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, monsieur, oui. Prendre la dernière question. Ouais. Allez-y.
Bonjour, monsieur. Merci pour la clarté de votre exposé. Écoutez, là,
on vous entend. Ouais. Merci.
Je vous retrouve dans votre clarté parce que je vous ai eu comme professeur de philosophie à Lille 3. Merci de vous retrouver. Et lorsque j'ai préparé l'agrégation de philosophie, vous aviez à nous traiter de Fichte, le destin de Fichte, qui était un texte à l'oral de la philosophie. Vous avez répondu à la question plus ou moins ce que je voulais poser sur le rapport qu'il y avait entre la vérité et l'herméneutique. Je vais lui répondre. Mais je reviendrai sur le dernier point que le monsieur a abordé tout à l'heure, celui du détour. Cassir, vous avez dit. Je dirais Cassir, lui, qui est lecteur de Kant. C'est qu'au fond, le détour n'est autre chose que une définition de la philosophie. Qu'est-ce que c'est philosophie? C'est raisonner. Qu'est-ce que c'est raisonner? C'est faire des médiations, faire des connexions, faire des liens. C'est un syllogisme, établir des liens. Et là, nous avions Kant, comme tu me le dis, qui s'insurge contre la connaissance intuitive. Et il prend un exemple. Le mystique suédois, je tiens le nom parce que je n'ai pas envie de... Je ne le connais pas très bien, Swedenborg, qui avait des visions, qui pouvait voir de loin, dire ça, la vérité, ou prédire l'avenir. Quand il s'insurge en disant non, la La connaissance passe par des médiations. Et cette façon de connaître n'est pas acceptable. Donc, mon problème est de revenir sur l'être. Vous avez dit, l'herméneutique, monsieur l'a répété alors, c'est une méthodologie, mais pas une ontologie. Vous avez dit, l'ontologie, c'est la philosophie première. L'être, bon, on a des difficultés à connaître l'être, mais on sait que depuis Aristote, l'être c'est dit de plusieurs façons. Si on a des difficultés à connaître l'être, le problème est de savoir l'herméneutique, interprétation d'interprétation. Quelqu'un interprète, j'y reviens, j'interprète, ça devient des interprétations infinies. Quelle serait la validité et qu'est-ce qui serait l'horizon qui donnerait la validité à une interprétation définie?
Merci, aussi.
Oui, non, la question est importante. Pour essayer de répondre brièvement, je reste convaincu hein, que l'herméneutique est une philosophie seconde et qu'on a affaire effectivement à des interprétations qui portent sur des interprétations. C'est-à-dire qu'on essaye de remettre en sens quelque chose qui n'en a plus, dont on suppose qu'il l'avait. Et que dans ce contexte, on reste effectivement toujours au niveau de la médiation, hein, qui est le propre, comme vous l'avez dit, de la philosophie. Alors, qu'est-ce qui permet de juger de la validité ou de la vérité? C'est-à-dire, est-ce que l'herméneutique, pour juger de la vérité d'une interprétation, doit se référer à l'idée d'une vérité comme adéquation, soit un sens originel premier qui serait celui de l'être, ou de ce qui est, soit elle y renonce. Le propre de l'herméneutique, tel que je l'entends, c'est qu'elle n'a pas accès à ce qui serait ainsi une vérité première, et que par conséquent, l'interprétation comme telle n'est pas vraie, au sens où il n'y a pas d'adéquation. Mais l'interprétation est plus ou moins valide dans la mesure où elle nous permet justement des synthèses qui rendent compte d'un plus grand, enfin qui synthétisent un plus grand divers, mais qui comme tel n'est jamais établi comme étant vrai. Si vous voulez, à partir du moment où, comme chez Kant, on dit adieu à l'être, hein, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à l'être, on dit adieu à la vérité, hein, on remplace la vérité par l'objectivité, au sens néo-kantien du terme, alors à ce moment-là, effectivement, une herméneutique comme telle n'est pas ontologique.
Bon, écoutez, il me reste à remercier très chaleureusement Christian Berner d'être venu nous présenter Au détour du sens aujourd'hui.
Merci.